Nous sommes donc partis pour la dernière séquence de ces deux journées nationales de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur. L'idée est d'être un peu innovant aussi dans le format. Ce n'est pas une conclusion, c'est plutôt peut-être un rebond ou une espèce d'analyse et de projection encore grâce à nos quatre intervenants. Je vais donc transmettre la parole à Madame Neville et ensuite ils se succéderont à ce pupitre jusqu'à l'intervention de Simone Bonafous et peut-être vous discuterez entre vous.
Le titre de cette conférence de clôture, vous l'avez vu, c'est « L'innovation pédagogique en France, écho d'avenir ». Je vais donc essayer de regarder du côté de cet avenir dont nous avons perçu des échos très prometteurs ces deux derniers jours. Ce faisant, je vais profiter surtout de mon expérience au sein de l'initiative IDEFI et plus récemment au sein de l'initiative IDEFI-N, projet où j'ai eu le grand plaisir de collaborer avec Denis et avec Philippe. Pour qu'un avenir soit solide, il lui faut des bases. Et les chiffres qu'on peut maintenant citer sont la preuve même que cet avenir d'innovation pédagogique s'annonce solide. Pour les IDEFI, comme vous le savez, 36 projets labellisés en 2012 et plus récemment pour les IDEFI-N, implication de 93 établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et de 21 entreprises privées. Tous les publics confondus, plus de 50 000 personnes ont été touchées rien que par ces deux initiatives jusqu'à présent. Un réseau inter-IDEFI s'est même créé spontanément, sorte de communauté de pratique, a community of practice, autre promesse de pérennisation. Et autre signe prometteur, si les initiatives IDEFI sont parties de la base ou des grassroots, comme l'a dit Denis hier, nous avons été frappés, et quand je dis nous, je veux dire le jury des initiatives IDEFI, nous avons été frappés par un mouvement inverse, top-down, par le nombre de présidents d'universités et de directeurs d'écoles qui sont venus soutenir leurs collègues et présenter ensemble leurs projets collectifs. Notons aussi le fait que dans un bon nombre de ces projets, des universitaires français mondialement connus figurent parmi les enseignants, y compris par exemple un prix Nobel qui fait cours en première année dans une des initiatives IDEFI-N. On peut également signaler le nombre croissant de publications de recherche en pédagogie par les porteurs de projets IDEFI. Et avec la remise hier des premiers prix PEPS, sorte de cerise sur le gâteau, je dirais, icing on the cake, j'irais jusqu'à dire qu'il existe maintenant en France un mouvement de fond qu'on ne peut plus arrêter. Toujours à propos d'avenir, les initiatives IDEFI, les projets IDEFI sont en quelque sorte des exemples d'innovation pédagogique au service de l'avenir. Elle facilite par exemple l'émergence de nouveaux métiers autour de la problématique de la personne âgée par une approche pluridisciplinaire alliant santé, urbanisme, informatique, etc. Et autre sorte de décloisonnement parmi les projets IDEFI, nous avons été également frappés par le décloisonnement à l'œuvre entre différents niveaux de l'éducation nationale, par exemple des passerelles établies entre différents genres d'établissements et en même temps par la collaboration réelle et étroite entre des établissements importants, très renommés et plusieurs milliers d'élèves dans des écoles et des lycées de quartiers défavorisés. Je l'ai dit ailleurs et je me permets de le redire ici aujourd'hui, je resterai toujours admirative devant le discours social qui est au cœur de votre travail et qui a même, je dirais, un petit côté Troisième République dans un monde où l'enseignement supérieur est devenu très souvent dans d'autres pays un business et où les frais d'inscription pour un étudiant ou une étudiante sur 3-4 ans représentent le prix d'un appartement, j'espère que la France restera toujours fidèle à sa vision concernant la valeur intrinsèque de l'enseignement, de l'éducation nationale pour l'individu, pour le citoyen et pour la société en général. Cependant, et il y a toujours un cependant dans ce genre de présentation, l'enjeu central de ces initiatives pédagogiques, c'est quand même de donner envie à l'enseignant-chercheur de base de réfléchir sur sa pédagogie, d'expérimenter, de prendre le risque d'échouer, mais en tout cas de chercher comment trouver des moyens pour faire passer la passion des études à ses étudiants, finalement pour aider les étudiants. Or, et là, on l'a dit souvent, plusieurs fois ces deux derniers jours, il est clair que ce genre de travail d'exploration pédagogique ou de rupture pédagogique, pour reprendre une phrase de Madame Bonafous, que vous avez utilisée dans un autre contexte, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup, ce genre de travail de rupture pédagogique est chronophage. S'il n'est pas compensé, son avenir semblerait à la longue plutôt fragile. La passion, l'enthousiasme, la bonne volonté ne durent qu'un moment, comme nous le dit la chanson. Mais là aussi, ayant écouté attentivement les différents intervenants depuis deux jours, surtout par exemple les paroles du ministre hier après-midi, je suis maintenant plutôt optimiste dans ce domaine. En tout cas, il existe ailleurs un énorme nombre, une grande variété de modèles qu'on peut examiner dans ce contexte. L'Université nationale d'Irlande à Maynooth, par exemple, et excusez-moi de prendre un exemple de chez moi, mais c'est parce que c'est un système que je connais bien et ce schéma est très clair. À Maynooth, par exemple, pour être promu au rang de senior lecturer, votre dossier est examiné de la façon suivante. 40% des points vont à la recherche, 40% des points vont à l'excellence pédagogique, et c'est à vous de prouver votre excellence pédagogique, et 20% à l'engagement social. Vous voyez là que la pédagogie n'est plus le parent pauvre de la recherche dans ce schéma. Mais ajoutons aussi que dans le volet pédagogie, il peut y avoir une activité de recherche. Si vous prenez votre enseignement, votre pédagogie, par exemple, comme objet de recherche. Et pourquoi pas insister en même temps que ce souci d'excellence pédagogique devrait exister non seulement dans le contexte de la promotion, mais encore plus en amont, au moment de l'embauche initiale. Pourquoi pas, par exemple, demander aux candidats à un poste d'enseignant-chercheur, non seulement de se présenter à un entretien rigoureux qui durerait au moins une heure, mais également de faire un court témoin devant le jury ou de préférence devant le jury avec un public plus élargi où figureraient les futurs collègues et les futurs étudiants qui auraient tous leur mot à dire sur la qualité de la pédagogie qu'ils auraient vue. Ce travail de transformation pédagogique devrait quand même, le travail que vous êtes en train de faire, que nous avons pu constater non seulement ces deux derniers jours, mais depuis plusieurs années maintenant, ce travail de transformation pédagogique quand même devrait être mieux connu à l'étranger, via vos ambassades, les réseaux sociaux et des publications à large diffusion, par exemple The Times Higher Education Supplement, The Chronicle of Higher Education, etc. À l'étranger, on n'est pas assez au courant de ce que vous êtes en train de faire. Rien que parmi les projets IDEFI et IDEFI-N, nous avons identifié des projets que nous avons appelés projets fleurons, qui enrichiraient le débat international sur la pédagogie de l'enseignement supérieur, The International Scholarship of Teaching and Learning, s'ils étaient connus à l'étranger. C'est vraiment un travail de cutting edge que vous êtes en train de faire, mais comme j'ai dit, ce serait vraiment enrichissant pour tout le monde si c'était mieux connu de façon plus générale. En matière de recherche, vous êtes déjà parmi les leaders mondiaux, il n'y a même pas besoin de le dire. Il est temps maintenant d'en faire autant au niveau de la pédagogie. Hier, dans Le Monde, là, le supplément « Université et grandes écoles » à la une de ce supplément, dans l'article là sur la formation continue, une journaliste a commencé son article par l'injonction « rêvons ». So, rêvons, I have a dream. Je vous invite donc en conclusion à faire un autre rêve. Rêvons donc d'un pays, la France, où on pourrait dire aux futurs étudiants, qu'ils soient français ou étrangers, on pourrait leur dire « venez chez nous, venez ici, vos professeurs seront bien sûr parmi les leaders mondiaux en recherche, mais également en pédagogie ». Vous aurez accès à l'apprentissage par projet, à un parrainage professionnel, à des parcours flexibles, à un tutorat personnalisé, à un enseignement décloisonné qui facilite l'émergence des nouveaux métiers, qui s'adresse à des problèmes de société, l'environnement, la sécurité, les banlieues, etc. Vous avez, je l'espère, repéré dans cette liste non exhaustive quelques descriptifs des projets et défis. Et donc, en conclusion, sincèrement, en 2011-2012, lorsque les IDFI ont été lancés, je n'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps, en 4 ans, un tel travail de rupture pédagogique aurait été accompli. Et donc, en conclusion, je vous souhaite très bonne continuation dans votre travail. Merci.
Bonjour, bon après-midi. Quel plaisir, quel bonheur quand même de se retrouver avec autant de personnes qui ont comme point focal la pédagogie. Quand j'ai commencé à travailler en Belgique il y a quelques années, j'ai qualifié ces moments de bonbons intellectuels pour moi, où on se donne l'occasion de pouvoir échanger sur des thématiques qui nous touchent, qui sont des sujets dont on tient fortement. Alors, je vais essayer d'ajouter quelques éléments complémentaires à ce que Grace vous a partagé. Surtout, au départ, je vous propose donc 4 constats liés à l'expérience de ce jury PEPS que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider. Et je souhaite publiquement remercier tous les collègues qui ont été associés à ce jury par le temps, l'énergie et l'effort qu'ils ont consenti à mettre dans ce travail de reconnaissance, des efforts de développement pédagogique et de soutien dans les institutions françaises. Et je ferai par la suite, dans une perspective d'avenir, justement, différents constats. En fait, je vous fais 2 propositions que j'élaborerai avec vous. Alors voilà. Clairement, pour moi, l'innovation pédagogique, pour avoir participé au jury IDFI dès le départ, est en progression en France. Il y a une traction réelle, donc on gagne du terrain. C'est un constat qui, je crois, aujourd'hui peut être qualifié d'indéniable, non seulement par l'existence de ces concours, IDFI, IDFI-N ou PEPS, mais aussi par l'existence d'associations, et je veux les nommer quand même. Là, il y a Question de pédagogie en enseignement supérieur, qui est née dans la région de Brest, qui tiendra un colloque en 2017 dans la région de Grenoble. Ce sont des indicateurs aussi de l'émergence et de l'importance qui est accordée à l'innovation, partie de la base, grassroots moments ou mouvements là, qui existent. L'AIPU, l'Association internationale de pédagogie universitaire, qui existe également, même le BSQF pour Belgique, Suisse, Québec et France, où les conseillers pédagogiques ou les personnes qui travaillent au soutien pédagogique se retrouvent entre eux annuellement. Toutes ces associations témoignent aussi et reflètent l'importance qui est accordée d'un point de vue structurel, organisationnel, à l'innovation pédagogique, à la pédagogie en général. PEPS, 2e constat, le premier mot, c'est passion. Et pour moi, c'est avant tout ce que représente ce concours. Une occasion pour des passionnés, que j'aurais aussi tendance à appeler les artisans de l'innovation pédagogique dans les universités, de se faire valoir, de sortir un peu de l'ombre, de sortir de ces coins un peu plus isolés, parce qu'il faut reconnaître, dans les premiers mouvements, les premiers moments, c'est une idée seule que l'on a, parfois en équipe, mais qu'on ne cherche pas à publiciser nécessairement, y allant à tâtons au départ sur les moyens, la forme, les réalisations qu'on souhaite atteindre, les objectifs et tout. Et donc, c'est pour moi tout cela, ce concours. C'est une occasion de donner la chance à certaines personnes, au départ localement, de se faire reconnaître quant à ces efforts mis en place et par la suite à un niveau peut-être régional et éventuellement maintenant national. Donc, il faut reconnaître cette passion, ce désir, cette volonté de changer. Troisième constat. Les candidatures PEPS, bien sûr, ça se veut aussi le reflet de ce qui se passe sur le terrain et moins dans les grandes sphères de réflexion pédagogique, congrès et autres. Et donc, dans ces coins, parfois ombragés d'une institution, se déroulent des choses fantastiques. Ce sont ces petites perles auxquelles je faisais référence hier, qu'il est très avantageux de mettre en évidence et qu'on a tous intérêt à chercher, qu'on soit dirigeant de ces universités, administrateur ou collègue. Il faut, je crois, les mettre de l'avant. Et ces initiatives pédagogiques mises en lumière au cours des deux dernières journées par l'attribution de ces prix témoignent du fait que des centaines de collègues en France sont à pied d'œuvre pour changer ce qui est peut-être considéré jusqu'à ce moment dans leur espace de travail comme une norme établie ou des façons de faire établies. Mais de fait, il faut les questionner. On a beaucoup parlé de transformation au cours de ces deux jours. Et enfin, quatrième constat pour les PEPS, l'innovation, il faut le comprendre, quand on regarde le tout, même en Amérique du Nord, on l'associe souvent à des filières professionnalisantes. Même souvent des filières professionnalisantes issues des sciences appliquées, des sciences de la santé. Mais ce concours a révélé également que les sciences humaines n'ont rien à envier aux personnes qui travaillent dans ces autres domaines, puisqu'ils se sont vraiment démarqués et ont été très nombreux, même si je ne me trompe, majoritairement, les candidatures sont venues des sciences humaines et sociales. Et donc, il faut aussi reconnaître l'effort et l'énergie investie par des collègues qui, traditionnellement, n'ont peut-être pas autant de forces externes qui poussent sur eux, comme des associations professionnelles ou des ordres professionnels qui pourraient vouloir leur exiger d'eux que les finissants de ces programmes de formation rencontrent bien les exigences attendues sur le marché du travail. Alors, voilà pour mes quatre constats PEPS. Maintenant, mes deux propositions pour l'avenir. Il importe, et je ne suis pas le seul à le penser, je vous en parlerai un peu mieux tout à l'heure, de parler d'excellence en pédagogie. Et j'insiste sur ce mot. De fait, la proposition que je vous fais, c'est de considérer l'innovation pédagogique comme un levier vers l'excellence. Non pas l'excellence au sens néolibéral, c'est-à-dire qui implique la compétition, la reddition de comptes, le pouvoir, le contrôle, la fragmentation même des efforts, voire l'autocratique, la perspective autocratique ou le contrôle, mais l'excellence sociale et sociétale, qui implique plutôt la collégialité, la transparence, l'ouverture au public, la promotion des valeurs de confiance et de partage, ce qui caractérise pour une bonne part la façon dont on mène les activités de recherche en institutions d'enseignement supérieur. Et donc, cette excellence misant alors sur le développement de communautés de pratiques, autocritiques et établissant des standards, ces standards de qualité. Il y a beaucoup à faire, là. Ce que j'évoque implique énormément, c'est un grand chantier. Donc, l'excellence sociale qui ne se confond pas avec l'élitisme et ses privilèges associés, mais qui se propose à tous. Une excellence sociétale qui ne sert pas les intérêts de quelques-uns uniquement, mais qui vise l'intérêt général et alors le bien commun. Avec mes collègues de ce que l'on a appelé maintenant le Network for Excellence in Higher Education, c'est de fait un réseau qui est un bébé, si l'on veut, ou un regroupement qui s'est créé à partir de certains membres, une grande majorité, de fait, des membres du jury IDEFI, dont on vous a dit qu'il était de nature internationale. Et donc, il y a des collègues dans ce réseau qui viennent de différents pays, Italie, Amérique du Sud, Canada, différents pays européens. Donc, on s'est réunis, l'initiative en partie de Philippe ici. Donc, il y a eu une volonté d'aller plus loin, grâce, il faisait référence. Et donc, ce réseau, issu donc du membre, fait la promotion de l'excellence académique, hein, qui s'applique à différents niveaux de l'institution. Alors, je vais insister un petit peu sur cette facette. Le ministre y a fait un peu référence aussi. Quels sont ces niveaux? Le niveau de management, et donc le niveau politique, avec des étudiants qui travaillent avec moi, qui sont souvent, comme vous, des acteurs du terrain. Certains ont comme projet d'innovation ce que l'on qualifie maintenant d'innovation managériale, qui doit s'aligner justement avec l'innovation pédagogique pour être conséquente. Et c'est cet alignement dont je parlerai aussi un peu qui représente une des clés de voûte de ces changements et de leur durée dans le temps. Alors donc, ce niveau, le niveau, de, bien sûr, de la recherche, Grace y a fait référence, recherche en pédagogie, c'est de la recherche. Publié dans une revue scientifique de Engineering Education ou de pédagogie médicale, c'est de la recherche. Et pourquoi pas la reconnaître à ce titre au moment des promotions, par exemple. Et bien sûr, le niveau des programmes de formation et des activités d'enseignement. Donc, il y a ces trois niveaux qu'il importe d'associer à l'idée d'excellence. Et donc, c'est cette construction institutionnelle de l'espace d'excellence qui représentera probablement une des façons les plus efficaces de favoriser l'implantation de ce souci de la pédagogie, voire de l'innovation pédagogique. Et il faut toujours le réfléchir dans une perspective qui peut à la fois être locale, régionale, locale au sens institutionnel, régionale, nationale, comme ces prix représentent, mais aussi internationale, puisqu'il importe de se comparer. L'idée des jurys internationaux, justement, reflète cela. Alors, la deuxième proposition, c'est de considérer l'innovation pédagogique dans une perspective de changement ou de transformation paradigmatique. Bon, ce n'est pas une idée qui vient de moi, au contraire. Barre et Tag, dans un article qui a beaucoup fait sa marque, ont parlé de ce changement qui date. C'est un article qui a été publié dans les années 90. Mais c'est au sens kuhnien ou de Kuhn que je propose de considérer cette transformation paradigmatique, c'est-à-dire qui implique alors de considérer autant les modes de pensée que les actions que l'on pose. Alors, je vais revenir sur ces deux dimensions. Donc, on parle du paradigme de l'enseignement, reflétant alors les pratiques plus traditionnelles, vers le paradigme de l'apprentissage, où on cherche à se centrer davantage sur l'étudiant. Alors, ce qu'il importe de faire, c'est d'aligner, dès le départ, avant tout, l'orientation du changement. On oublie parfois de parler de posture, de vision, de valeur. Et ce sont ces éléments fondamentaux qui vont souvent représenter le noyau dur du changement, de la proposition, de l'innovation, qui va probablement aussi évoluer dans le temps, se métamorphoser, s'adapter à peut-être de nouveaux milieux, si on part de l'institution d'où vous êtes pour aller ailleurs. Et donc, il faut savoir reconnaître les éléments centraux, souvent associés à ces aspects plus philosophiques, du changement lui-même. Et donc, il faut les formuler clairement pour soi et pour les autres éventuellement. Dans une perspective aussi de considérer les finalités de tout cela. Vous savez que l'université, on a eu quelques échanges dans les ateliers où j'ai été, sur l'idée que l'université forme qui, hein, au final? Donc, il y a cette idée d'université libérale qui forme alors le citoyen éclairé, dans une vision assez traditionnelle de l'université européenne, vers l'université plus de Humboldt, par exemple, dite scientifique, où on cherche à former davantage un spécialiste avisé, qui pourra alors devenir l'expert pour conseiller, vers une université, une troisième strate de service, issue davantage du modèle nord-américain, où la cible, alors, c'est de former des professionnels. Mais il n'y a pas à choisir ici. Il y a des strates qui se superposent les unes aux autres, et généralement, nos universités reflètent ces trois réalités. Alors, pour nos propres projets d'innovation, il importe de bien voir quelle est la cible, et de comprendre que dans l'ensemble du portrait de l'institution où nous nous trouvons, cela représente une certaine complexité et il faut la reconnaître et l'accueillir favorablement pour pouvoir y réagir adéquatement. Et donc, l'université a l'avantage d'être considérée dans cette perspective comme une organisation apprenante, une institution apprenante, dans la perspective aussi où le changement devrait être systémique. Hein? Plus il est systémique, plus il a de chances naturellement de durer dans le temps. C'est-à-dire autant dans ses structures institutionnelles que dans les processus eux-mêmes. Si implanté en morceaux, si implanté de façon parcellaire, il y a un risque. La littérature nous informe bien à ce sujet-là. Une innovation n'est jamais garantie dans le temps. Au contraire, il y a de grands cas documentés dans la littérature que même après 10, 15 ans, tout peut revenir par l'arrière. C'est un peu l'effet boomerang qui peut se produire. Et donc, pourquoi il y a des risques associés au fait de l'implanter de façon parcellaire? C'est qu'il y a des risques de distorsion, il y a des risques de rejet, étant donné que, par défaut, ce qui est va chercher à rester ce qui est. Donc, la norme restera ou cherchera à rester ce qu'elle est. Les valeurs établies ne chercheront pas à bouger. Donc, il faut être conscient du fait qu'y aller par petits bouts, il va falloir travailler sur plusieurs fronts en même temps, plutôt que d'y aller dans un effort davantage centré. Alors, reconnaître à la base que le paradigme de l'enseignement, encore aujourd'hui, domine la plupart des institutions d'enseignement supérieur, et que cette réalité est le reflet, très souvent, des politiques gouvernementales ou ministérielles. Alors, il y a un lien très fort qui doit être établi entre les deux réalités. L'Amérique n'a pas évolué de la façon dont elle a évolué d'un point de vue institutionnel dans un vacuum, dans un vide. La réalité politique et ministérielle ou institutionnelle là-bas a influencé la façon dont les universités ont évolué elles-mêmes. Et donc, les implications des changements sont multiples, et il est vraisemblable que la transformation des institutions d'enseignement supérieur, les vôtres, d'où vous êtes issus et ailleurs en France, prendra du temps, comme tout prend le temps de prendre le temps, comme on dit, des années. Alors, il ne faut pas être trop pressé non plus. L'urgence, le ministère va dans la bonne direction en finançant, proposant ses projets, mais vous savez bien, sur le terrain, et d'ailleurs, c'est bien que les projets IDEFI aient proposé un financement sur une longue période, comme les 8 années qui sont proposées. Alors, j'arrive à la fin. Favoriser le changement de paradigme, donc, il importe de reconnaître l'écart, voire le fossé, qui existe encore entre le désir ou les intentions, d'une part, et la réalité, d'autre part. Il y a deux auteurs, Argyris, tiens, je vais le dire en français, et Schoen, qui ont parlé de théorie professée, hein, c'est-à-dire les principes qu'une personne évoque pour témoigner de ce qu'elle fait, versus la théorie actée, c'est-à-dire ce que l'observateur alors peut dégager comme principe d'action qui motive ou explique ce qu'une autre personne peut faire. Et donc, on peut reconnaître dans cette perspective que le paradigme de l'enseignement, encore aujourd'hui, représente davantage la théorie actée et que le paradigme de l'apprentissage représente davantage la théorie professée. C'est-à-dire, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on désire faire. Mais vous le savez tout autant que moi, les recherches en éducation montrent, en éducation, en psychologie de l'apprentissage, en sciences cognitives, on sait ce que veut dire apprendre aujourd'hui. Et on sait aussi que l'exposé magistraux, dont je suis en partie un exemple maintenant, n'est pas une meilleure ou la meilleure situation d'apprendre les choses. Au contraire, la recherche nous apprend, entre autres choses, que plus on est actif, mieux on apprend, mieux que les choses se collent dans notre esprit, dans notre mémoire, que de fait, les moments clés d'apprentissage ne se produisent pas en classe, autre constat qui peut parfois bousculer, que l'accompagnement ou le compagnonnage représente des clés importantes de la capacité non seulement d'apprendre chez un individu, mais encore une fois, de réintroduire ses savoirs dans d'autres milieux, de les mobiliser adéquatement. Qu'est-ce que alors tout cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que ces connaissances, ce savoir, quelles sont les conséquences pour nos modalités de formation, touchant autant la façon d'agir de l'enseignant que la façon d'apprendre de l'étudiant, que ce soit en présentiel et surtout à distance? Alors, pour beaucoup d'enseignants ou de dirigeants, intuitivement ou explicitement, comme c'est pris et vous-même en témoignez, tout cela, ce paradigme que l'on qualifie de paradigme de l'apprentissage, a fait du sens. Il importe alors, et je conclue avec cette phrase, pour toutes les raisons évoquées depuis 2 jours, aujourd'hui aussi, entre autres, de passer de la parole aux actes, à tous les niveaux dont j'ai parlé, et comme on dit au Québec, que les bottines suivent les babines. Merci beaucoup et bonne continuité.
Bonjour à toutes et à tous. Pas d'expression québécoise pour moi, désolé. Une posture un petit peu différente aussi, puisque je n'étais président ni des jurys PEPS, ni des jurys DEFI. Et je vais plutôt vous proposer un bilan tout à fait sélectif, bien entendu, de ce qui a été dit et évoqué ces 2 derniers jours. Et un bilan prospectif aussi. On nous a invités à nous projeter dans l'avenir. Et c'est ce que je vais tenter de faire en plus ou moins 3 fois 180 secondes. Ça a été dit, ça a été redit, mais je pense qu'il faut le redire encore, même si c'est bref. Ça y est, l'innovation pédagogique est bien en marche en France, et c'est une vraie bonne nouvelle, et c'est un Belge qui le dit. C'est une vraie bonne nouvelle pour vous, et c'est une vraie bonne nouvelle pour nous tous, parce que je pense que le temps, et ça peut paraître un petit peu prétentieux de le dire, mais c'est tout à fait bienveillant, le temps où... on était souvent amené à dire et à entendre que ça se passait en Belgique, en Suisse, au Québec, et en regrettant que ça ne se passait pas de la même manière en France. Ce temps-là semble de plus en plus révolu, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la pédagogie dans son ensemble, parce qu'on a besoin de la France, mais aussi peut-être pour l'enseignement universitaire francophone en général dans le monde et son attractivité, et on sait que c'est un des enjeux fondamentaux pour l'avenir. Donc, un vrai contexte enthousiasmant et malgré tout, dans la posture qui est la mienne, j'ai envie de questionner ce qu'était l'objectif, en tout cas le point central des deux réunions, des deux journées d'aujourd'hui, qui était ce lien que nous voulions questionner entre l'innovation et le rôle de l'innovation pédagogique dans le processus de transformation des pratiques pédagogiques dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français. Est-ce que l'innovation a nécessairement le pouvoir de transformation qu'on lui prête ? Est-ce qu'elle constitue une condition suffisante pour induire des transformations pédagogiques structurelles, pérennes, à large échelle ? En fait, pour paraphraser un ouvrage pédagogique célèbre de Michel Saint-Onge, dont les plus attentifs d'entre vous auront d'ailleurs vu la couverture hier sur une des diapositives, je pense, de nos collègues de Grenoble, la question pourrait être, le livre étant « Moi j'enseigne, eux apprennent-ils », la question pourrait être « Moi j'innove, est-ce qu'ils transforment ?» Beaucoup des questions, des actions, des interpellations qui ont entendu ces deux derniers jours, bien sûr, nourrissent cette question de la transformation pédagogique. Je vais donc essayer de m'appuyer sur l'une ou l'autre de ces interventions en m'excusant déjà auprès de celles et ceux que je ne citerai pas, mais je pense que nous avons tous des contingences horaires et cela serait évidemment un peu long et un peu exhaustif. Donc, première réflexion, il y en aura trois. Première réflexion, innover sans doute, transformer certainement. L'innovateur pédagogique et l'innovation pédagogique, plus exactement, n'est pas une fin en soi. Une innovation, au sens où nous l'avons traitée ensemble, et tu l'as rappelé il y a quelques instants, Denis, se doit d'apporter une réelle plus-value sur l'apprentissage, sur la réussite des étudiants ou sur leur devenir socioprofessionnel. Est-ce qu'il faudrait nécessairement sacrifier le livre quand il est un support démocratique permettant l'accès au savoir ? Est-ce qu'il faut nécessairement sacrifier le tableau noir quand il est un magnifique outil de démonstration pour les mathématiciens ? Est-ce qu'il faut nécessairement supprimer le cours magistral quand il a lieu de l'expression de la passion d'un professeur juriste, par exemple ? Bien sûr que non. Ce qu'il faut sacrifier, c'est toute pratique qui n'apporte pas de valeur ajoutée, voire même qui fait parfois obstacle à l'apprentissage et à la réussite des étudiants. Et à cet égard, nous devons être prudents et modérés. Notre enthousiasme, il convient de rappeler encore il y a quelques instants, face à l'émergence de tant de pratiques innovantes, cet enthousiasme ne suffira pas pour éradiquer, j'utilise le terme à dessein, les pratiques d'enseignement dysfonctionnelles que subissent encore trop souvent beaucoup trop d'étudiants, comme le rappelait d'ailleurs hier Antoine Martin au nom de la Conférence nationale des étudiants vice-président de l'université. Une autre manière de dire cela, c'est aussi rapporter ce que j'entendais dans les ateliers, notamment ce matin, où l'on associerait parfois, peut-être par frustration aussi, l'innovation pédagogique à une Ferrari, hein, comme une métaphore automobile, alors que le besoin d'une simple voiture qui fonctionnerait n'est pas rencontré. À cet égard, le risque existe de confondre ou d'assimiler l'usage de certaines méthodes que l'on va qualifier d'actives ou de technologies que l'on va qualifier de numériques, de les confondre avec l'innovation. Ou peut-être l'autre risque, pire encore, serait de croire qu'il suffit d'innover pour améliorer. J'aurais envie de dire que si l'innovation est perçue comme un remède, alors, avant l'innovation, il faut se poser la question du diagnostic. C'est la question du pourquoi, et tu l'as aussi évoqué, Denis, la question des valeurs, des finalités, des raisons qui fondent l'innovation et toute action pédagogique. Au fond, quel est le problème que nous voulons résoudre ? Par quelle voie ? Et ensuite seulement se poser la question du moyen et de l'innovation comme solution à ce problème. Nous savons dans la réalité que ça ne se passe pas toujours comme cela. A fortiori d'ailleurs avec des innovateurs dont une des motivations de base est précisément de sortir de la routine et de l'habitude. Une autre question à se poser avant de se lancer dans l'innovation, outre celle du diagnostic donc, et du pourquoi en un mot, est celle de sa finalité, c'est-à-dire du pourquoi en deux mots. En matière d'innovation, on dirait parfois que la question du comment précède la question du pourquoi. Et le risque existe tout particulièrement avec le numérique. S'interroge-t-on assez sur les domaines, sur les champs d'expertise dans lesquels il serait surtout nécessaire d'innover ? Développer des compétences nouvelles, développer le goût, la capacité à innover, développer la maîtrise de technologies nouvelles, apprendre, évaluer autrement, oui, tout cela est indispensable, bien entendu. Mais à propos de quoi ? À propos de quel savoir, de quel savoir-faire, de quel savoir-être ? Il me semble que le bailleur de fond de l'innovation, ou celui qui est en position de piloter l'établissement ou le système au sein duquel se déroule l'innovation, bien plus que l'innovateur lui-même, cette personne, donc, a un rôle à jouer pour aiguiller l'innovation et faire en sorte que sa plus-value intrinsèque et les moyens qu'on y consacre soient directement portés vers les domaines où elle est la plus nécessaire. Il ne m'appartient pas de désigner ces domaines. Il ne pourrait d'ailleurs s'agir que d'une compétence collective et d'une responsabilité collégiale. Mais la littérature, ou la prise de connaissances d'expériences menées dans d'autres contextes, étrangers notamment, peuvent nous donner des éclairages dont il convient de ne pas se priver, y inclus pour oser l'innovation sans nécessairement passer par le champ du numérique. Le rapport Stranes qu'on nous a présenté ce matin constitue évidemment une source d'inspiration très importante pour orienter nos champs d'intervention et donc d'innovation dans l'enseignement supérieur, tant en matière de réduction des inégalités d'accès aux études que de gestion de l'hétérogénéité des publics auxquels on s'adresse ou encore des nouveaux métiers auxquels nous avons à préparer nos étudiants, pour ne citer que ces trois exemples. Et ce rapport d'ailleurs va plus loin puisqu'il indique aussi de manière explicite que tout cela rend nécessaire, en fait indispensable, la transformation en profondeur de l'enseignement supérieur français. Mais si j'osais, je dirais que l'observation de notre environnement, du monde dans lequel nous vivons, et hélas de son actualité funeste, doit également être source de créativité et nous conduire à placer l'innovation au cœur des questions que l'on traite, et donc au cœur de nos curriculums, au moins autant qu'au travers de nos méthodes et de nos outils. Par exemple, un système efficace d'inclusion sociale et académique, comme l'évoquait hier Olivier Dyens lors de sa conférence inaugurale. C'est-à-dire un système qui permette réellement, dans un contexte, on le rappelait ce matin, où il existe une forte tension entre massification et individualisation, mais dans ce contexte, pouvoir organiser un système qui permette à chaque étudiant de l'enseignement supérieur, sans rien concéder à l'exigence, tu le rappelais Denis, d'atteindre sa propre excellence et de la mettre au service du bien commun, voilà bien un beau projet d'innovation. Autre exemple dicté par l'actualité, l'apprentissage de la gestion des émotions ou la définition de nouveaux codes déontologiques ou éthiques dans l'exercice de son activité professionnelle, ou encore l'inter- et la transdisciplinarité au service des grands défis sociétaux ou des super méchants problèmes, pour reprendre le concept désormais célèbre proposé par Véronique Hylaine ce matin, ou encore la place de l'argumentation et de la pensée critique pour soutenir une pensée libre et lutter contre tous les obscurantismes, ou enfin la construction d'une véritable pédagogie de l'interculturalité ou de la socialisation qui transcenderait les réflexes identitaires et les replis sur soi. Trois petits points, bien sûr, il y a tant à faire. Deuxième réflexion, ce qui est important dans l'innovation, c'est l'innovateur. Le monde académique entretient une relation paradoxale avec l'innovation pédagogique. L'innovation est par définition à la croisée de l'enseignement et de la recherche. En ce sens, l'innovation devrait être le premier choix, presque par défaut, de l'enseignant-chercheur. Pourtant, et alors que le paradigme de l'innovation semble s'imposer naturellement quand il s'agit de chercher, c'est loin d'être le cas quand il s'agit d'enseigner. On pourrait même penser qu'en matière de pédagogie universitaire, beaucoup de nos collègues semblent confondre habitude et certitude. Nous avons tous une explication, plus ou moins noble d'ailleurs, pour justifier du faible pouvoir de conviction des pédagogies innovantes sur la pratique de nombreux collègues. Mais le fait est là, il ne suffit pas d'innover dans un amphi pour que cela percole dans l'amphi d'à côté. Dans mon institution, par exemple, nous mettons à la disposition, via un appel à projet pour les enseignants, un fonds annuel de 550 000 euros pour soutenir des innovations pédagogiques, une espèce de mini-IDFI institutionnel. C'est évidemment fort bien, mais cela fait 20 ans que ça existe et nous n'y trompons pas. Le cercle des innovateurs n'a pas énormément grandi, au point que l'on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux, comme en football, transférer les innovateurs d'un programme ou d'une faculté à l'autre, plutôt que d'espérer un hypothétique transfert d'innovation pédagogique auquel nous aspirons tous, mais qui ne se passe jamais. Une considération importante se cache derrière cette boutade. L'innovation ne se décrète pas, elle s'accompagne. Bien entendu, des initiatives top-down, et on en a rappelé, traduisent la volonté au plus haut niveau de soutenir l'innovation, et quand elles sont accompagnées d'incitants financiers significatifs, comme c'est le cas depuis quelques années en France, elles paraissent indispensables et on ne peut être qu'admiratif devant la force de levier et le caractère entraînant de ce type de projet, Et on l'a vu à travers des projets IDEFI, les projets numériques IDEFI également, et les projets PEPS, dont on a eu la chance et le bonheur, vraiment, et le plaisir de faire la découverte ces dernières semaines. Nous savons que le risque premier de ce type d'innovation est de s'arrêter en même temps que leur financement, a fortiori quand ce dernier est élevé. À l'inverse, nous savons également que l'enthousiasme et l'effet mobilisateur de projets bottom-up, initiés souvent à l'échelle d'un cours ou d'un programme ou d'une filière, par un enseignant ou une équipe enseignante, s'épuisent avec le temps et parfois même avec amertume quand les forces vives viennent à manquer ou quand les résultats ne sont pas à la hauteur de l'espérance. Vive donc l'innovation frugale, comme le disait Didier ce matin, celle qui part du terrain, celle qui ne coûte pas cher, mais seulement à la condition qu'elle soit pilotée au sein de l'établissement et mise au service d'une stratégie institutionnelle plus globale que l'on peut qualifier de stratégie de trampoline, hein, vous la connaissez bien. Pour faire des grands bonds, il faut faire et refaire beaucoup de petits bonds. Parfois aussi, les innovateurs dérangent. On l'a rappelé hier. Et ils dérangent parce qu'ils décloisonnent, parce qu'ils bousculent les savoirs, les murs, les horaires, les budgets, les lignes hiérarchiques, les statuts, les habitudes, y inclus celles de nos étudiants. Nous constations ensemble au petit déjeuner ce matin qu'il semble que parce que les étudiants changent, ils seraient naturellement demandeurs d'innovation. Ce n'est pas vrai. Ils changent, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont prêts à modifier leurs habitudes et leur manière d'apprendre et d'étudier, a fortiori, puisqu'elles ont mené avec réussite là où ils sont. Soutenir l'innovation, c'est aussi prendre soin des innovateurs, leur donner des moyens, ne pas les laisser seuls, mais aussi les accompagner, les former, les valoriser. C'est un enjeu central, évidemment. C'est l'enjeu de l'accompagnement, de la reconnaissance de la fonction innovation et à travers cela, la reconnaissance de tous ceux qui s'investissent dans l'enseignement. Même Monsieur le ministre l'a dit. Cela passe nécessairement par la mise en place de centres de ressources pédagogiques susceptibles d'offrir un accompagnement personnalisé qui, soit dit en passant, est une première forme de reconnaissance, mais aussi d'assurer, ces centres permettent d'assurer la pérennité ou l'extension de l'innovation au-delà d'une première phase de projet. Lionel Vallet, hier porteur du projet IDEFI RéflexPro, relevait aussi l'intérêt de communautés de pratique pour atteindre cet objectif. Tout cela est utile, mais cela passe également par des politiques institutionnelles permettant de valoriser, au sens de mettre en valeur, l'expertise, l'investissement des innovateurs pédagogiques. Il y a de nombreuses manières pour une institution de mettre en valeur ces innovations pédagogiques. Un processus de promotion, par exemple, qui intègre explicitement des critères d'engagement pédagogique, on en a parlé dans un ou autre atelier, l'attribution de mandats à responsabilité, des incitants financiers, bien sûr, un renforcement des moyens d'encadrement dans les lieux d'innovation, l'implication des innovateurs dans la formation pédagogique de leurs pairs, etc., etc. L'innovateur pédagogique, en fait, n'a pas besoin de reconnaissance pour innover. Mais une institution a besoin de reconnaître ses innovateurs si elle veut développer une politique innovante en la matière. Et pour un observateur étranger, mais quand même un peu familier du système français, il se pourrait bien que, si je devais faire passer un seul message, ce serait le suivant. Le premier terrain d'innovation, le premier au sens de celui qu'il faut mener avant les autres, pour rendre les autres possibles, pourrait bien être celui, justement, de la transformation de la gestion des carrières académiques au sein de l'enseignement supérieur en France. J'ai entendu parler statut, recrutement, formation initiale et continue, évaluation des performances, la valorisation de l'engagement pédagogique des enseignants-chercheurs, mais en fait, j'en entends parler depuis assez longtemps, très franchement. Pour parler avec respect, vraiment, mais sans langue de bois, et pour participer régulièrement à des échanges de ce type portant sur ces questions dans les universités françaises, je constate, et je ne suis pas le seul à constater, parce que c'était très présent dans les différents ateliers, que les idées et l'envie pour bouger les lignes en la matière ne manquent pas. Révision des procédures, des critères d'habilitation, y inclut à la CNU, dossier d'enseignement, prix d'excellence, formation pédagogique obligatoire, évaluation des enseignements, je vais vite, mais vous voyez bien de ce dont il s'agit, révision du calcul des charges d'enseignement, on a parlé de l'ECTS de l'enseignant. Mais j'aurais envie de dire de manière un peu provocante sur toutes ces questions, en la matière, surtout ne soyez pas innovants, faites simplement comme les autres. Troisième réflexion, et la dernière et la plus courte. L'innovation, cela se démontre et cela se montre, et ça a été bien dit il y a quelques minutes. L'innovation pédagogique, pour gagner ses lettres de noblesse institutionnelle, doit aussi faire ses preuves. Il ne suffit pas d'innover pour être un bon enseignant. Et l'innovation n'est pertinente que parce qu'elle répond à des besoins précis dans un contexte donné. Les résultats de l'innovation doivent donc être soumis avec le plus haut niveau de rigueur à l'exercice de la démonstration scientifique. Innover, c'est expérimenter. Dans cette perspective, l'évaluation des pratiques pédagogiques et la recherche en pédagogie sont des éléments clés d'une politique institutionnelle valorisant l'innovation. Ce sont les mêmes pieds d'un même tabouret, si je peux m'exprimer comme cela, mais ce n'est pas vraiment une expression belge. Il ne s'agit pas seulement d'inscrire une culture de l'évaluation au cœur de chaque projet d'innovation, il convient également d'attendre de l'innovateur qu'il se comporte comme un chercheur, soucieux d'analyser les effets de son dispositif avant de vouloir le généraliser, et de sorte à sortir l'innovation des seuls registres de la conviction, du militantisme ou de l'effet de mode. Une innovation réussie, et j'ai presque terminé, et son pouvoir transformant, cela se démontre. Mais une fois démontrée, il faut la montrer, la faire connaître, communiquer, publier, partager, sans fausse modestie. L'enseignement supérieur français a intégré, nous l'avons donc tous vu ensemble, ces deux derniers jours, l'innovation pédagogique dans ses pratiques. Il ne faut plus hésiter à le faire savoir, en publiant, en communiquant, en confrontant l'expérience acquise au sein des établissements français aux travaux des collègues étrangers. Pourrait-il y avoir meilleur gage de réussite pour l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur en France que de voir ainsi l'expertise acquise et reconnue en son sein apporter une contribution significative au rayonnement international de ces universités et de ces grandes écoles? Je vous remercie.
Donc, bonsoir, bonne fin d'après-midi à tous. Je vais vous dire bonsoir à cette heure-ci. J'ai l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, par rapport à mes collègues, de n'avoir pas préparé. Mon exercice à moi consistant à réagir et à clore deux journées auxquelles je n'ai que partiellement participé. Alors, mais le peu que j'ai participé et tout ce que j'ai entendu hier matin, en fait, et puis à la remise des prix, puis ce soir, et puis tout ce qu'on m'a dit tout au long de la journée, en particulier à travers les retours du ministre, qui est venu tout à l'heure pour les 180 secondes, en cachette, discrètement, écoutez, aussi de des services, des collègues. Voilà, c'est d'abord vous dire un grand bravo. Hein, bravo à tous et merci à tous. Donc d'abord à ceux qui sont là ou qui étaient là dans les deux jours, à ceux qui ont candidaté au prix PEPS et à ceux qui ont été lauréats, mais autant aux uns qu'aux autres. Hein, je voudrais vraiment dire un grand merci pour la qualité de ce que vous avez fait, de ce que vous avez démontré, de ce que vous avez peut-être encore insuffisamment montré, mais enfin, le prix est une façon de montrer. Et pour le nombre que vous avez été à participer à ces journées et à ce concours, je crois que c'est déjà voilà, une vraie monstration de, effectivement, du fait qu'on n'est plus dans des frémissements, qu'on n'est plus dans un début, mais qu'on est bien maintenant à un moment où la France affirme effectivement sa présence hein, dans un réseau international, et d'abord francophone, mais plus global, de la transformation des modes d'enseigner et d'apprendre, puisque les deux vont ensemble. Donc d'abord, vraiment un grand merci à vous tous pour être là, pour avoir été là, pour avoir concouru. Un grand merci, bien sûr, aux membres du jury, dont certains sont de vrais fidèles, puisque nous les retrouvons à travers, effectivement, ces différentes actions qui sont convergentes, hein, qui vont dans le même sens, qui sont plusieurs façons pour l'État de soutenir. Vous aviez raison de dire que bon, il faut des innovants, mais il faut un soutien institutionnel qui peut prendre diverses formes, soutien dans les établissements, et il y a des présidents qui sont venus, au-delà de la CPU et de la CDFI que je salue, mais qui sont venus avec leurs lauréats, hein, soutenir devant le jury, dans certains cas, et puis hier, on avait effectivement quelques présidents qui étaient là pour manifester le fait que ces équipes pédagogiques, je reviendrai sur le terme d'équipe, ne sont pas seules, mais sont bien effectivement portées par un établissement. Donc vraiment, un grand merci à tous, un grand merci au jury, au président du jury, un grand merci aux co-organisateurs, alors à tous ceux qui ont participé aux conférences qui nous ont épaulés, aux différentes conférences, associations, etc., de pédagogie universitaire qui ont travaillé avec nous, à mes collègues du ministère, tous ceux qui ont participé à des degrés voilà, très intensément, moins intensément, parce qu'ils faisaient aussi autre chose, en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne, tous, parce que je sais que ça a été un énorme travail organisationnel et de fond. Donc vraiment, c'est une très belle réussite. Et à toutes les sociétés qui ont travaillé avec eux, enfin, tous ceux qui y ont contribué. Merci à New Stank Éducation et à Marc Guéraud d'avoir été à nos côtés au long de ces deux journées et dans l'animation. Alors, je ne vais pas faire de longs discours. J'ai retenu de vos propos finaux quand même quelques éléments. Ce que j'ai trouvé de particulièrement frappant dans vos trois interventions, c'est cette interrogation sur le pourquoi. À deux niveaux, si je peux dire. C'était très fort dans vos trois interventions. Un pourquoi. Pourquoi innover et transformer. Je crois qu'on voit bien aujourd'hui le passage, la nécessité de passer de l'un à l'autre. Alors, sur ce pourquoi, on peut dire beaucoup de choses. Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit. Je pense qu'on savoir si les étudiants, parce qu'ils ont changé, ce qui est normal, enfin, je veux dire, tous les étudiants changent toujours, enfin, c'est évolution, si je peux dire. Donc là, il n'y a rien de très nouveau, sauf que voilà, le monde change avec les étudiants, ils en changent avec le monde. Est-ce qu'ils veulent de l'innovation ou pas? Et je voyais le vice-président de la CPU confirmer de la tête qu'ils n'étaient pas si innovants que ça parce que le monde se transformait, parce qu'ils étaient différents. Ben, ça dépend lesquels, moi, je dirais. Il n'y a pas les étudiants, hein. Puisqu'il y a les femmes, etc. Bon, donc, les étudiants, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, quand même, c'est que notre pays, secondaire ou supérieur, dans un bel ensemble, est tout à fait capable de renouveler son élite, de former son élite, ses élites, et de les classer. On a même un système très complexe. Je participais hier à une réunion sur ce sujet, hein. Très complexe d'organisation des concours avec des banques, avec des groupes, avec voilà. Et on sait bien faire ça avec, entre autres, pas seulement, mais notre système de classe préparatoire, etc. Bon, même ça, ça marche peut-être moins bien. Même ça, aujourd'hui, on s'interroge. D'ailleurs, il y a beaucoup moins d'entrées dans les concours qu'avant, par notre fameux système de classes préparatoires. Hein, moins de 50% maintenant viennent des classes préparatoires. Après, ça dépend un peu des concours, mais c'est quand même donc, un besoin, même à ce niveau-là, de formes différentes d'entrée hein, dans la réussite. Donc, bon, ce système de fabrication des élites, lui-même, il bouge un peu. Il est en partie mis en cause, je suis bien d'accord, qu'en partie, mais suffisamment quand même pour que des proviseurs de grands lycées parisiens nous disent qu'ils ont une part non négligeable de leurs étudiants de terminale, des meilleurs, qui partent ailleurs, après le bac, pour effectivement à la fois accéder aux meilleures études et éviter ces systèmes-là. Bon. Donc ça, c'est une réalité. Après, il y a une deuxième réalité qui est tous ces jeunes qui ne trouvent pas la réussite en secondaire, dès le secondaire parfois. Je ne parle pas des décrocheurs graves, comme diraient les jeunes, etc. Mais de ces gens qui en première, terminale, pas au début, pas sans forcément de raison évidente, de déterminisme facile, si je peux dire, abandonnent, ne réussissent pas leurs études supérieures s'ils arrivent, etc., et que la grande école du numérique, d'une certaine façon, incarne ce besoin qu'on a eu dans un secteur qui a besoin, dans un secteur qui attend des salariés, qui a besoin de salariés, où il y a de l'emploi, où on n'arrive pas à fournir, on a eu besoin, là, récemment, et je participais avec les ministres concernés, la nôtre bien sûr, mais aussi celui de la ville, celui du travail, à cette remise des labels Grande École du Numérique à toute une série d'institutions, et on l'a fait à l'école 42, hein, alors que, voilà, de façon un peu emblématique, toutes ces institutions, toutes ces associations, parfois ces UT, parfois ces universités, mais là, pour le coup, c'était toutes catégories confondues, indépendamment des statuts, qui se sont engagées pour accueillir, avec des pédagogies totalement différentes, des jeunes de statuts complètement différents, pour les faire réussir dans les métiers de la programmation et du numérique, où on manque de main-d'œuvre jeune, et on en a besoin, on sait que les métiers sont là, que les besoins sont là. Or, notre système classique ne les forme pas. Et une partie d'entre eux sont hors du système classique. Donc ça, c'est quand même la deuxième, pour nuancer le hochement de tête du président Roussel, même s'il a sans doute raison sur une partie. Et puis, je dirais, il y a tous ceux dont on nous dit, enfin moi, j'en enseigne plus, je reconnais depuis quelques années, mais même à la fin, dans les dernières années où j'enseignais, bon, des fois, c'est dur quand même, c'était dur, et pourtant, moi, j'enseignais pas des choses très classiques, mais ce qu'on me dit, c'est l'ennui, ils sont toujours dans leur ordinateur, on a quand même du mal, enfin, etc., etc., c'est-à-dire qu'il y a quand même, alors il y a sans doute des gens très dociles, et puis, bien sûr, des cours magistraux qui marchent très bien, ça, c'est pas, on est bien d'accord, et puis, eh bien, il y a quand même, effectivement, je crois, forcément, ce rapport aux connaissances différents, le fait que les modes de savoir aujourd'hui sont différents, et que donc il y a quand même une obligation, beaucoup d'enseignants le disent, de se remettre en cause pour certains, plutôt malgré que bon gré, il n'y a pas que du bon gré, et qui sentent que vraiment il y a une nécessité d'évoluer s'ils veulent. Voilà. Donc c'est tout cet ensemble de pourquoi. Que je crois qu'il faut savoir aujourd'hui rappeler. Le ministre l'a dit hier, on n'a pas le choix. C'est sa façon de lui le dire, il nous dit on n'a pas le choix. Bon. Puis après, je trouve que vous avez développé, je n'avais pas souvent entendu aussi fortement de votre part, dans des réunions comme celle-ci. Ça a moins été dit, par exemple, aux journées AEF l'autre jour sur le numérique, alors qu'il y a beaucoup de choses convergentes, évidemment, même si l'innovation pédagogique ne se réduit pas au numérique. C'est ce que vous avez dit. Sur l'excellence sociétale, ça m'a vraiment frappée, et les valeurs dans vos trois interventions. Donc je ne sais pas comment ça a été dit dans le reste des deux jours, le fait que derrière l'innovation et la transformation pédagogique, il y avait aussi une vision des professionnels qu'on veut former, des jeunes qu'on veut former, des citoyens qu'on veut former, et où l'excellence, effectivement, ne se confond pas avec l'élitisme, elle peut tout à fait y contribuer, hein, il n'y a pas d'opposition non plus, hein, ne faisons pas dire ce que je ne veux pas dire, il n'y a pas d'opposition du tout, mais ça ne s'y réduit pas, et où c'est en même temps... une vision du faire ensemble. Je crois, moi, ça m'a beaucoup frappé. On parlait beaucoup jusqu'ici d'équipes de recherche. On se met. Et ce qu'on a vu, c'est des collectifs. Les prix, il y avait des prix individuels ou des prix. Enfin, on n'a pas vu des individus seuls. C'était bien des groupes. C'était très frappant dans les films, hein, sur le prix hier, avec ces duos qui marchaient, comme dans les films américains. Bon, voilà, ces regards sur la scène à deux, à trois, ces échanges. Bon, c'est du collectif. Bon, je crois que ça, c'est vraiment. Il y a dans cette transformation pédagogique, il y a vraiment, dans tous les cas, quelque chose qui se fait en équipe et qui se fait effectivement pour des jeunes ou des salariés vus comme partie prenante d'une société avec une idée qu'on a de la société. Je crois que c'est beaucoup ressorti de vos propos, une société innovante, une société où on ne reconnaît pas que des qualités académiques classiques, hein. Où on reconnaît que ça a été dit l'autre jour, c'était je crois Monteil, hein, qui disait ça aux journées du numérique, qui disait il y a plusieurs façons, hein, il y a plusieurs formes de compétences et de capacités intellectuelles, et que les modes traditionnels n'en privilégient que certains, hein, et que donc c'est clair que ce que vous avez montré hier dans les prix, en particulier, je pense, sur l'apprentissage des langues, que je trouve en collectif extrêmement intéressant, sur la transformation du rapport à l'autre dans l'apprentissage, où effectivement on apprend tous ensemble mieux et chacun mieux, et ce que l'on fait mieux ensemble, ça ne prend rien à chacun. Donc il y a toute cette vision que l'on retrouve ensuite dans le travail. Il n'y a rien de pire dans le travail, on le voit tous, que ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas donner des informations, qui ne veulent pas les donner, qui pensent que ce qu'ils disent, ça prend, ce qu'ils donnent au collectif, ça prend à eux, ça prend à leur département, ça prend à leur secteur. Et c'est terrible pour eux. C'est terrible en vision, je pense, profondément, en vision de l'autre et de l'associé, mais c'est terrible dans le travail. Parce que du coup, le collectif de travail que nous sommes tous, où que nous soyons, n'avance pas à cause de ces comportements. La confiance, vous l'avez dit, ça suppose d'instaurer effectivement dans les processus d'apprentissage la notion de confiance comme étant ce qui fait progresser l'individu et le groupe, mais c'est aussi une vision de la société. La confiance, le collectif. Et donc, je crois que j'ai vraiment été frappée par ce que vous avez dit là, avec effectivement le fait que vous le reliez, peut-être le fait que ça démarre vraiment en ce moment en France, que c'est porté fortement. Vous l'avez aussi relié à notre rapport beaucoup moins marchand que d'autres pays, beaucoup moins financier, je dirais, que d'autres pays. Effectivement, je crois que bon, c'était intéressant de l'entendre dire. D'une collègue anglo-saxonne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent beaucoup... Il y a beaucoup de débats en France sur la faiblesse de nos droits d'inscription, sur le fait que l'enseignement est vraiment libre, en ce sens-là, ouvert, etc. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a vraiment fait ses choix, dans une période budgétaire difficile, de garder un enseignement qui, pour, en tout cas, toutes les universités... Toutes les écoles publiques est un enseignement quasi gratuit. Et c'est vrai que on peut considérer que ça a des inconvénients à certains moments, en termes de moyens disponibles directement. Mais on a aussi d'autres exemples en ce moment. Même les États-Unis sont en train de se poser qui est quand même le pays des droits, se poser la question, effectivement, du poids de la dette sur ces jeunes. Et c'est quand même assez nouveau. Je pense que depuis quelque temps, on n'entend plus fortement un contre-discours par rapport à ce sujet. Donc moi, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir su, dans vos interventions, tous les trois, donner cet éclairage sociétal sur ce qu'est cette transformation en train de se faire, parce que je crois qu'on ne peut plus parler simplement d'innovation. Et voilà, cette communauté, l'idée que derrière ce que vous faites tous, il y a une forme de communauté d'idées. Et aussi, moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'on a vu dans les films ou dans ce qui est ressorti de ces deux journées, ce plaisir de faire ensemble. Je pense que la notion de plaisir était très forte, de joie d'être ensemble, de joie de réussir ensemble les étudiants et les professeurs, les enseignants. Je prends professeurs au sens très large. Je ressortais beaucoup des films, beaucoup des vidéos. On le voyait sur l'écran. Et je crois que ça, c'est quand même une dimension très importante. Enfin, je crois que c'est une dimension très importante des études et du boulot. On passe quand même beaucoup de temps dans une vie entre les études, l'apprendre et puis le travail, et que de dire que voilà, ça peut pas être que de la course d'obstacles, ça peut pas être que de la compétition, et que bien sûr qu'il s'agit de participer, que la France doit tenir ça, mais que ça, le facteur plaisir, plaisir d'être ensemble, plaisir de réussir ensemble, moi je pense que c'est quand même un des principaux vecteurs qui nous fait, ce qui nous fait avancer. Je voudrais terminer sur un point qui m'a aussi, je n'ai pas tout compris parce que je ne connais pas assez, mais qui m'a frappé dans vos interventions. Donc, vous avez mentionné, alors si j'ai bien compris, vous êtes en train de faire vous-même, ce que j'ai cru comprendre, un réseau international, des différents pays, alors francophones, européens, vous préciserez. Donc, je crois que ça, c'est effectivement une question. Alors, il y a des associations internationales de pédagogie, etc. Donc, vous aurez l'occasion de me réexpliquer ce à quoi vous avez fait allusion. Moi, je voudrais dire que, effectivement, pour la France, il y a une question qui se pose particulièrement, et je pense qu'on aura l'occasion de travailler avec les conférences, en particulier, pas seulement, mais entre autres. Comment nous pourrions, donc on y pense en ce moment, comment nous pourrions relier tout ce que nous faisons là, autour de la transformation pédagogique, avec le fait que nous et des valeurs que ça porte, avec le discours sociétal que vous avez très bien su mettre en valeur tout à l'heure, avec le fait que la France va être l'organisateur de la conférence de Bologne en 2018 pour les 20 ans de Bologne, les 20 ans du processus de Bologne. Donc c'est un choix que nous avons fait. Nous avons convaincu nos ministres en 2014-2015 d'aller donc en Arménie à Erevan, prendre le relais. Hein, c'était l'Arménie qui portait le processus de Bologne. Nous sommes en ce moment organisateurs du secrétariat de Bologne, et donc c'est nous qui portons ce processus, de façon à ce qu'à les 20 ans de Bologne soient symboliquement à Paris, où ils ont démarré à travers la conférence de la Sorbonne. En fait, c'était Claude Allègre qui l'avait porté une année avant le vrai Bologne. Bon. Et donc, en disant, ben, c'est peut-être le moment, au bout de 20 ans, c'est peut-être le moment de se dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire l'Europe ? Qu'est-ce que ça veut dire Bologne ? Est-ce que 20 ans après, ça a toujours un sens ? Et lequel ? Et quel rôle la France peut jouer en termes, et pas de façon... prétentieuse, enfin, pour dire au reste du monde, voilà ce qu'il faut faire. Mais dans notre Europe, dans des temps, vous avez évoqué, hein, dans des temps où, les questions d'identité, les questions de valeur, questions de savoir comment on fonde effectivement nos États, nos républiques sur des valeurs qui ont du sens, concrètes, partagées. Moi, je trouve que ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est des choses qui sont concrètes, ça donne du sens à des mots qui sont effectivement des mots comme égalité ou fraternité qu'on a parfois du mal à un peu incarner, hein, derrière des... Bon, voilà, moi je trouve que c'est des choses concrètes qu'il faut mobiliser quand on veut donner du sens à ce à quoi nous croyons, hein, à une façon d'être ensemble et au rôle de l'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment... C'est une des questions sur lesquelles nous réfléchissons en ce moment. Comment connecter ce mouvement de transformation pédagogique et le rôle que nous sommes maintenant capables, avec d'autres bien sûr, d'y jouer avec ce processus de Bologne, de façon à bien montrer que, oui, l'enseignement supérieur, c'est à la fois effectivement le PIA, les rankings, l'excellence dans la recherche, mais c'est aussi la recherche en éducation, et c'est aussi l'excellence éducative au service d'une société dans laquelle nous croyons, dans ce qu'elle a de meilleur. Voilà, je vous remercie.
Merci à tous. J'ai préparé avec Claude Bertrand, Didier Paquelin et Sylvie Guessab. Merci à tous et vive la pédagogie innovante.